Bonjour à tous. Rebonjour. Alors, qu'allons-nous manger? Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui? J'avais à cœur depuis très longtemps de partager un verset avec vous qui se situe au début des Actes des Apôtres. Alors, vous connaissez certainement, et pour ceux qui ne connaissent pas très bien, donc il s'est passé à Jérusalem des événements qui ont bouleversé toute la ville et qui vont bouleverser toute l'humanité. Il y a un homme qui a été crucifié, qui s'appelle Jésus, et on dit même qu'il a été ressuscité au troisième jour. Ça alors, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais plus encore, il a été vu pendant 40 jours. Il a mangé avec les disciples. Plus encore, certains l'ont vu partir au ciel. Et il parlait en disant qu'il reviendra un jour. Et quand il est parti, les disciples se sont sentis certainement esseulés. Mais le Seigneur avait fait une promesse qu'il enverrait un consolateur, un autre. Et cet autre, 10 jours après, ça a été le Saint-Esprit. Christ étant retourné assis à la droite du Père, il a envoyé l'Esprit Saint, qui est Dieu l'Esprit, qui est tout comme le Père et le Fils, omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est pour ça que le Saint-Esprit peut venir habiter à l'intérieur de chacun et chacune qui reçoit Jésus dans son cœur. Et ces chrétiens ont vécu cette expérience du don du Saint-Esprit, ça s'appelle la Pentecôte. Et là, ils n'ont pas très bien compris sur le moment ce qui se passait, parce qu'il y a eu un grand bruit, comme un grand vent. Et tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, et des autres les comprenaient. Et il y avait 120 personnes qui étaient là, qui ont vécu cet événement extraordinaire. Et ça fait tellement de bruit que ce jour-là, il y en a eu pratiquement 3000 qui sont venus au Seigneur. On trouve ce passage dans l'acte 2, 37 à 41, si on peut mettre, hein, avec le discours de Pierre sur le fait de se repentir et de venir à Jésus. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutées environ 3000 âmes. Waouh, c'est énorme. Et au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Je vais m'arrêter sur ce verset que j'appellerai des quatre persévérances. Et certains ont imagé ces quatre persévérances comme les quatre pieds d'une chaise. Pour qu'une chaise soit solide et fonctionnelle, il lui faut quatre pieds. Vous pouvez en ajouter plein d'autres, mais avant quatre pieds, il n'y a pas grand-chose qui tient, à part les petits objets qui servent à ceux qui trayaient les vaches. Hein, ils avaient juste un, mais c'est autre chose, ça. J'ai un souvenir de mon enfance. Donc, Donc, en quoi persévérait-il? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Si on replace les choses dans leur contexte, aucun texte n'était écrit à part les textes de l'Ancien Testament. Et l'enseignement des apôtres, c'était la transmission par les 11 apôtres, pas les 12, puisqu'on sait que Judas n'était plus là, les 11 apôtres qui ont vécu 3 ans avec Jésus et qui ont reçu à la fois tout son enseignement et les expériences qu'ils avaient vécues ensemble, c'était leur rôle de transmettre cette connaissance, de transmettre ces choses à tous ceux qui ou ne connaissaient pas ou avaient vaguement entendu parler de l'actualité de l'époque. Et c'était en fait le rôle des apôtres de transmettre ce message du Nouveau Testament, d'une nouvelle alliance. Alors vous me direz aujourd'hui comment ça se passe si on veut actualiser cette persévérance dans l'enseignement. Nous avons eu le privilège aujourd'hui d'avoir une Bible, d'avoir les textes qui nous aident à comprendre. Nous avons le privilège aussi que Dieu met à part des personnes qui ont des aptitudes à enseigner aussi, à enseigner cette parole, à enseigner toute cette doctrine, à enseigner qui est Jésus et aussi quel est le vrai sens de cette nouvelle alliance, qui est Dieu le Père, qui est le Saint-Esprit, mais qui est aussi la pensée de Dieu pour l'humanité dans toute l'histoire au travers d'Israël, et d'enseigner aussi ce qui va arriver. Parce que, voilà, le Seigneur va revenir, et il faut aussi qu'on le sache. Ça fait 2000 ans que des gens ont persévéré dans cet enseignement, et c'est important. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. L'Écriture nous parle de faux apôtres, de faux docteurs. Alors, je crois qu'aussi aujourd'hui, avec les moyens techniques Internet qu'on a, on peut être enseigné dans plein de choses. Et on trouve de tout. Alors, je voudrais simplement dire comment s'y retrouver. Je crois que déjà l'Esprit Saint, qui est un esprit de vérité, peut nous conduire dans toute la vérité. Je crois qu'on peut aller poser des questions à des personnes qui ont des connaissances depuis longtemps de l'Écriture. Je crois que les moyens ne manquent pas aujourd'hui. Et c'est vrai que dans l'Église, ici, on a plusieurs moyens pour être enseigné. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas des temps très précis. Voilà, on a tous eu une activité professionnelle à côté. Ce n'était pas toujours évident de trouver du temps entre la famille, le métier, l'Église. Mais il y a toujours la possibilité, soit collectivement, soit pendant le culte, soit individuellement, d'être enseigné et de recevoir cette connaissance de l'Écriture. Et par-dessus tout, je crois qu'on peut demander à Dieu d'aimer la vérité. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, mais je crois que si on veut vraiment avoir dans son cœur cette attestation de l'Esprit Saint que la façon dont je comprends l'Écriture est bonne et juste et saine, je crois qu'on peut demander à Dieu d'aimer la vérité. On se rend compte dans notre actualité géopolitique aujourd'hui que aimer la vérité n'est pas forcément le désir de tout le monde. Mais je pense qu'on peut... Moi, j'aime bien, voilà, j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aimer. Je trouve que c'est aussi une façon, voilà, d'aimer Christ, puisqu'il est la vérité. Mais d'aimer la vérité, c'est dire, Seigneur, je me rends disponible à ton esprit ou à un enseignement qui m'éveillera dans des choses qui sont justes ou pas justes. Hein, je crois que c'est important. On a, voilà, les fausses doctrines existent et elles sont subtiles. Et je crois que c'est important de grandir dans la vérité et d'aimer la vérité. Je pourrais vous raconter plein de choses, mais ça prendrait trop de temps, donc on ne va pas trop prolonger. Juste, c'est vrai, je crois que c'est important. On a vécu, il y a une vingtaine d'années, c'était la mode des séminaires prophétiques. Et voilà, plusieurs sont allés écouter quelqu'un et qui a généré du trouble au milieu de nous et on ne savait pas pourquoi. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que j'écoute cet enseignement pour comprendre ce qui se passe. Et puis j'écoutais, et puis c'était des belles paroles. Elles étaient quelque part pas fausses du tout, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et le dernier jour, cette personne a donné son témoignage, et je me suis dit, mais là, c'est lui. Les enseignements qu'il y avait avant, il était sous emprise. Et en fait, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Je ne pouvais pas dire encore quoi, mais c'était tellement étrange. Et en fait, après, avec ma raison, avec l'écriture, en questionnant, j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui se cache là derrière et qui nous mettait tellement mal à l'aise. Et avec le temps, Dieu a posé sur notre route des informations, des jalons, des personnes, c'était étonnant. Et tout d'un coup, on a pu dire, voilà, oui, c'est cette doctrine-là qui avait, voilà, ça s'appelle, c'est un nom très savant, c'est la doctrine du dominionnisme, si vous voulez. Mais voilà, c'est quelque chose de très subtil qui a encore cours aujourd'hui, moins, mais qui existe encore. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était quelque chose qui pénétrait vraiment beaucoup dans la francophonie. Et le Seigneur a été bon parce que vraiment, à plusieurs, en équipe, ça a pris du temps, mais on a vraiment pu discerner. Et c'est pour ça que je trouve tellement important de demander à Dieu d'aimer la vérité. Parce que je crois que c'est un vrai garde-fou. Et quand on est confronté à quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, il y a des clignotants qui s'allument, il y a clignotant orange, attention. Et je crois qu'aujourd'hui, les chrétiens en ont besoin parce que sur Internet, on trouve de tout. Donc, on ne peut pas être derrière chacun, on ne peut pas tout vérifier, non. Donc, on a cette responsabilité personnelle, de trouver des moyens qui nous permettent d'être vigilants, d'éprouver, Dieu dit, hein, éprouver ce que vous entendez. Voilà, c'était ce que je voulais partager sur le fait de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Oups. On va peut-être mettre quelques versets, Catherine. Alors, Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Moi, j'aime beaucoup ce verset. Vous avez 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Thessaloniciens 4, 9, je vous donne quelques versets. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà, c'est très bien, on apprend soi-même de Dieu directement. Et 1 Pierre 3, 8, je ne l'ai pas mis sur la liste, peut-être pas, ouais. Peu importe. Il y a en tout cas des versets qui parlent d'amour fraternel. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer en quoi ça consiste. Chacun le vit ou l'imagine. J'avais juste, en tout cas, envie, voilà, de dire que l'amour fraternel dans l'Église, c'est pas toujours évident. Faut être sincère. Là où il y a des êtres humains, il y a bien souvent des difficultés. C'est une réalité. Et ça sert à rien de se voiler la face. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait le modèle de Jésus qui me paraissait très, très intéressant. Jésus, avec ses apôtres, son tout premier cercle d'amis, c'était Jean, hein, le disciple qu'il aimait plus que les autres, ou qui était aimé. Il avait une personne de qui il était très proche. On sait que le deuxième cercle, c'était Pierre et Jean, Pierre et Jacques. Hein, on dit Pierre, Jacques, Jean, hein, dans l'expression. Hein. Donc, ils étaient trois proches de Jésus. Après, il y avait les neuf autres apôtres autour de Jésus, et après, ceux qui accompagnaient le Seigneur. Et moi, je trouve que c'est un modèle social qui est à notre portée. Je pense que, alors, l'amour fraternel ou l'amitié, c'est, l'amour fraternel, pour moi, c'est une notion plus vaste, plus vague. Mais je pense qu'on a des affinités avec certaines personnes, naturellement. On se sent à l'aise avec une, deux, trois personnes. Alors, est-ce que vous arrivez à avoir des amis, 5, 10, 15, 20? Enfin, moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites. Mais en tout cas, je trouve que dans l'Église, si déjà chacun pouvait avoir 1, 2, 3 personnes avec qui il peut se sentir vraiment proche et en confiance. Vraiment tisser des liens d'amitié profonds. Je pense que ça permet d'avoir un maillage d'amour fraternel dans l'Église, au-delà de ce respect dont il était question, de cet amour fraternel général. Je pense que c'est un modèle qui est intéressant. En tout cas, pour moi, je me suis dit, voilà, ça c'est à ma portée. Ça, je peux assumer. Et je me dis, si on veille les uns sur les autres et qu'on se rend compte que chacun a un lien, au moins 1, 2 ou 3, plus d'amitié vraiment, de confiance avec quelqu'un, toute l'Église aura ce lien profond d'attachement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, on l'a vécu avec Catherine et Michel. Voilà, je crois que si l'Église existe toujours ici, c'est aussi à cause de cette amitié profonde. Michel a été en chambre commune à Kolding avec Jean-Marc avant d'être marié. Avec Catherine, on était colocataire à Genève avant de venir ici. Ça nous a permis de tisser des liens profonds. On s'est retrouvés ici en Bretagne. On a eu des épreuves, on a été séparés pendant 4 ans pour diverses raisons. Et au bout de 4 ans, on s'est retrouvés. En une demi-heure, on a remis les choses à plat. Tout le passé était oublié, effacé, parce que je crois profondément qu'il y avait cette amitié profonde entre nous. Et je pense qu'on peut mettre toutes les doctrines qu'on veut, on peut mettre tous les schémas de structure ecclésiale, de gouvernance qu'on veut. Je crois qu'il y a profondément ce maillage d'amitié les uns avec les autres qui est essentiel dans la vie de l'Église et qui fait que c'est un des pieds de ces chaises qui tient bon dans l'épreuve et qui est essentiel. Et qui évite aussi, je pense, vous savez, on entend souvent, oui, il y a des clans, un tel. Oups, moi, j'aime pas ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. À part quand Dieu dit, il y a un esprit clanique, ça, on est sur autre chose, on est sur quelque chose de de spirituel, mais voilà, si je trouve que ce modèle de Jésus, à la fois il est à la portée de chacun, et à la fois il évite justement ces dangers de groupement, de clan, et je pense que c'est, en tout cas personnellement, c'est quelque chose qui, dans lequel moi je suis à l'aise et contente et heureuse. La troisième persévérance, c'est la fraction du pain. Je crois qu'on vient de le vivre. Hein. Il s'agit de la pratique de la Sainte Cène. Je dis toujours, on peut pas, la Sainte Cène, elle ne peut pas être virtuelle. Voilà, il faut être ensemble, concrètement. Ça ne peut pas être quelque chose de virtuel. On ne peut pas la prendre tout seul dans son coin. À part peut-être des circonstances vraiment spéciales, extraordinaires. Pourquoi pas, il n'y a pas de ligne directrice précise, mais le propre de la fraction du pain est d'être ensemble et d'être un corps. Alors, c'est vrai que dans le contexte de cette église, cette première église, ça représentait aussi autre chose. On voit au verset 44-45 d'acte 2, « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. » Voilà, les premiers temps de l'Église, en fait, ils ont vécu en communauté et ils partageaient tout de façon à ce que les besoins de chacun soient pourvus. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on vit, hein, ce partage du pain, cette dimension-là. On sait que cette façon qu'ils avaient de vivre a été arrêtée par la persécution, et qui a obligé tous ces chrétiens, ces premiers chrétiens, à s'enfuir et à partir ailleurs et à se séparer. Et ça a permis la propagation de l'Évangile dans tout le Moyen-Orient. Alors, voilà, la notion, dans la fraction du pain, on peut peut-être aller plus loin et envisager toute la notion de partage. Ce n'est pas non plus une notion facile. En tout cas, je pense qu'il faut être honnête, donner ce qu'on a de notre superflu, ça va. Partager notre essentiel, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ce ne serait pas toujours facile. Néanmoins, je pense qu'on va peut-être dans des temps, vers des périodes où l'Église va peut-être, chacun individuellement ou collectivement, besoin de réfléchir sur ces choses-là, parce que les temps deviennent difficiles pour beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas de conseils particuliers à donner sur ce sujet-là, parce que... Coucou Théo. Hop, ça y est. Donc, je pense que là aussi, c'est peut-être à chacun de réfléchir à ces notions et de s'examiner soi-même devant Dieu pour savoir que vivre et comment les vivre. La vie en communauté telle qu'il l'était, nous on l'a expérimenté, c'était bien et c'était aussi parfois difficile. Après, il y a des personnes qui sont appelées à vivre en communauté. Je pense que s'il y a un appel, moi je dis bon, amen, c'est très bien. C'est des choses qui existent. En tout cas, persévérer dans la fraction du pain. Alors, on aurait dû reprendre le pique-nique aujourd'hui, mais l'équipe pastorale a fait le choix de ne pas réouvrir, en tout cas, le pique-nique en intérieur. Vu la situation sanitaire en Bretagne, qui est vraiment de nouveau très risquée, au vu de la fragilité de certains parmi nous, on a fait le choix plus de la prévention que Même si, ouais, c'est dur. La quatrième persévérance, c'était les prières. Se retrouver ensemble pour prier. Là aussi, on peut prier tout seul, mais il y a un impératif, une nécessité aussi de se retrouver ensemble. Il y a une puissance dans le fait de prier ensemble. Toutes sortes de prières, que ce soit la louange, la reconnaissance, l'intercession, le combat spirituel, la supplication. Il y a, je crois, une nécessité de découvrir la puissance de la prière et des prières dans un cadre collectif. C'est aussi important. Et en fait, sur ces quatre points, c'est le premier mot qui peut-être devrait aussi nous interpeller, persévérance. Qu'est-ce que ça veut dire de persévérer dans ces choses? Je dis souvent, quatre pieds d'une chaise, ça sert à quoi s'il n'y a pas quelque chose pour s'asseoir? Il y a quatre pieds, mais persévérer dans ces quatre choses, quel en est profondément le sens? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de persévérer dans ces choses-là? Alors, on va prendre 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et les versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À quoi cela servirait-il de persévérer dans ces quatre choses si le sens réel et profond n'était pas évoqué? Le fait d'appartenir à Jésus-Christ fait de nous une nation sainte, un peuple élu qui sert à annoncer les vertus de Dieu. Jésus-Christ, dans Matthieu 16, 18, dit « Je bâtirai mon église ». En grec, le mot « église », c'est « ecclésia ». C'est un groupement de personnes qui ont été mis à part, de côté, à côté. Et dans 1 Corinthiens 12, 27, on va peut-être le mettre, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Persévérer dans ces quatre domaines que j'ai cités tout à l'heure n'a de sens, je crois profondément, si on a conscience que collectivement nous sommes le corps de Christ, que collectivement nous sommes l'Église, que collectivement nous sommes un peuple saint mis à part sur toute la surface de la terre, et que c'est cette vision-là que nous avons à porter et à vivre, être témoin dans le monde. Jésus-Christ nous a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Cette notion de corps de Christ, pour moi, elle, voilà, avoir la passion du Christ, aimer le Seigneur Jésus, ne peut pas être dissociée de la passion de l'Église, du corps, parce que c'est Christ et qu'il est mort à la croix pour bâtir son Église. pour se choisir un peuple qu'il met à part et à qui il a assigné la charge d'être témoin dans le monde. Former un seul corps. Moi, j'aime beaucoup cette image du corps parce que la pensée de Christ, c'est de la révéler au monde. Et c'est dans Éphésiens 4:4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Le Seigneur a donné à son Église et à son corps cette notion de servir Jésus-Christ. Un corps, il y a des cellules, chaque cellule a sa place, chaque cellule a sa fonction. La cellule du cœur n'a pas la même fonction que celle des reins. La fonction des reins n'a pas la cellule des reins n'a pas la même fonction que le foie. Nous avons et nous sommes dans ce corps, chacun pour notre part, une partie de ce corps. Et c'est important que nous soyons conscients d'en découvrir quel est le nom et ma place. Je crois que c'est très important que je sache qu'est-ce que Dieu a pour moi, quel est le projet qu'il a pour ma vie, dans ce corps. C'est Jésus dans Jean 12, 26, si tu peux le mettre, Catherine. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, on découvre là toujours cette attitude du Christ de nous laisser libres, de choisir, de le servir ou pas. C'est-à-dire aussi d'être, alors je suis dans le corps, mais j'ai la liberté de devenir une cellule active, d'entrer dans le plan et le projet que Dieu a pour ma vie. Et ça, c'est quelque chose que Dieu doit nous donner, en tout cas, là aussi, qu'on doit aspirer à découvrir. Parce que quand on connaît son appel, quand on sait, voilà, Dieu nous a donné un tempérament, une personnalité, des dons naturels, des dons surnaturels, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Dieu me les a donnés comme ça, juste par hasard. Si quelqu'un me sert, et le premier pas est de choisir, est-ce que je veux servir Dieu? Et si oui, quel est mon appel? Et quand j'ai la réponse, eh bien, je me mets en route. Hein? Je crois vraiment ça, ainsi que la vision du corps de Christ et des cinq ministères que nous portons si fortement dans cette Église. Voilà, un corps sans ossature, c'est qu'un tas de cellules molles. On est un corps parce qu'on a une ossature. Cette ossature dans l'Église, c'est les ministères, les cinq ministères que Dieu a donnés. Et je me souviens, on était à la maison avec un groupe de vos amis, Anne Daniel, et il y avait un étudiant en médecine à qui je parlais de ces choses-là. Et il me disait, oui, mais les os, on ne les voit pas. Et j'ai trouvé tellement sage comme parole. Parce que dans le passage où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il dit, l'apôtre n'est pas plus grand que le maître. Et je crois que l'esprit de service doit être à la base de tous ces ministères. Mais ils sont là pour donner la visibilité au corps. Si j'avais pas mes os, je serais moi, mais je ne sais pas comment je serais. Hein, on peut imaginer. Alors pourquoi persévérer ? Persévérer dans toutes ces choses parce que ça a du sens pour Christ, son corps, son Église, pour laquelle il a donné sa vie. Je vous avoue que je suis triste dans mon cœur parce que nos pères ont reçu cette conviction, cette révélation il y a plus de 100 ans. Elle a pu être transmise de génération en génération. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui s'étiole. Je ne sais pas pourquoi. Je pense profondément que votre génération, cette génération nouvelle, a besoin de chercher la pensée de Dieu, la face de Dieu, pour vivre et porter cette révélation de l'Église. Je ne parle pas d'une institution, je parle celle que Christ nous révèle dans l'Écriture. Et le Saint-Esprit vraiment peut déposer au fond de vos cœurs cette conviction profonde de ce que représente l'Église pour Christ, son corps, à quel point il aime, et qui permettra à votre génération de poursuivre, de passer le relais et de le vivre. Et je crois que c'est la pensée de Dieu. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'important, de vital. Je crois que la passion pour Christ, elle doit être aussi importante que la passion pour l'Église, son corps. Et je crois qu'on a chacun la responsabilité, là aussi, c'est un choix. Si quelqu'un me sert, j'ai cette liberté d'aller devant lui et de lui dire, « Seigneur, révèle-moi cette réalité de ton corps. » Et ça va permettre tellement de choses. Je crois que si cette église à Kevin existe, c'est justement parce que des personnes ont reçu cette chose-là profondément il y a 45 ans et que malgré toutes les tempêtes, ça nous a permis de tenir la route parce que c'était quelque chose de profondément scellé au fond de nous. Et je pense que génération après génération, le Saint-Esprit a besoin de redonner cette révélation à son peuple pour pouvoir continuer. C'est pourquoi persévérer, c'est pas innocent du tout. C'est pas toujours facile, mais c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui procède du cœur de Dieu. C'est vraiment pour que le monde puisse voir l'Église aussi, être témoin. Et je pense que dans le monde dans lequel on est, même si ce n'est pas facile, eh bien on en a besoin, plus que jamais. Alors, je voulais vous laisser cette parole, que cela puisse parler à vos cœurs comme ça a pu parler au mien et vous réjouir aussi de cette découverte de ce que peut être l'Église avec un grand E. Hein, ce temple, ce peuple, cette race élue, c'est des mots tellement, tellement forts qu'on a de la peine à imaginer l'immensité, la profondeur de l'amour de Jésus pour nous. Amen.